C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 139 du 20 avril 2026. Une grosse émission aujourd'hui. On va parler des préoccupations du Comité des droits de l'homme de l'ONU concernant la situation des personnes LGBTQIA+ au Canada. Retour des thérapies de conversion aux États-Unis ainsi que des législateurs de la Géorgie qui, eux, bloquent les projets de loi anti-queer à Make America Queer Always. Et puis, recul des droits trans au Portugal, mais nouvelle loi contre les guet-apens sur Grindr en France à la chronique Transatlant Queer. Samia Amrani, porte-parole de la journée de visibilité lesbienne. Et on va parler aussi du mouvement Noir et Queer au Canada, toute première organisation nationale. Tout de suite à cette émission.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Dans un rapport, le Comité des droits de l'homme de l'ONU pointe du doigt la situation des personnes LGBTQIA+ au Canada. Alors que le pays a longtemps été perçu comme un modèle de protection, ce document souligne des reculs inquiétants et un climat social de plus en plus hostile. Magali Boudon, tu es directrice générale du Conseil québécois LGBT. Merci d'être avec nous pour en parler. Bienvenue à l'émission, Magali.
Salut Denis Martin, merci pour l'invitation.
Alors, le Conseil québécois LGBT dit que l'ONU a entendu son cri du cœur. Pourquoi c'était nécessaire de porter les préoccupations du Conseil québécois LGBT et aussi de la Clinique internationale de la défense des droits de l'UQAM jusqu'aux Nations unies pour que la situation canadienne soit enfin prise au sérieux?
C'était pour nous une reconnaissance en fait de ce que les organismes disent depuis des années, puis c'est désormais confirmé par l'ONU, comme tu l'as bien dit. C'est pour nous, il y a eu des dizaines de rapports de recherche, des témoignages innombrables, des organisations. Donc on n'est pas les seuls à avoir fait ces cris du cœur, et on n'a pas l'impression que les choses bougent pour autant. Bien au contraire. Alors on espère que ce rapport pourra convaincre nos décideurs de l'importance d'agir.
Donc on note que la tendance positive du Canada en matière de droits se renverse. C'est quoi les phénomènes précis documentés dans votre mémoire qui ont particulièrement été retenus par le comité?
Ce comité a retenu en fait un recul particulièrement au niveau des provinces. En fait, on a vu au Québec, en Alberta, en Saskatchewan, différentes directives, règlements ou lois se mettre en place dans les dernières années et qui venaient en fait soit limiter, soit complètement créer un recul des droits ou alors ne pas en fait favoriser la sensibilisation, la prévention envers les personnes LGBTQ+.
Le comité souligne aussi une prévalence alarmante du harcèlement, de l'exclusion sociale. Au-delà de ce constat, l'ONU appelle en fait à des campagnes d'information et des programmes éducatifs dans les écoles. Alors, quelle forme concrète là, ces mesures-là devraient prendre au Québec et au Canada pour contrer efficacement les stéréotypes?
Mais en fait, il y a deux avenues. La première avenue, elle est que les différents ministères de l'Éducation pourraient mettre en application en fait les cours, ce qu'on appelle les cours à la sexualité, là, de façon un peu basique, mais qui amène justement dès le plus jeune âge, hein, parce qu'il faut intervenir quand les enfants ont, en général entre 8 puis 12 ans, de pouvoir tout de suite sensibiliser, expliquer et par le fait même avoir des conséquences sur leur intolérance par la suite. Après ça, il y a évidemment le financement auprès des organismes communautaires qui font déjà tout ce travail de prévention dans les écoles, mais ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est... Ça va pas fort, ouais.
C'est, non seulement ça va pas fort, mais on est en plus dans des contextes tellement de violence dans les écoles et d'intolérance que même les intervenants des organismes ne veulent plus y aller en ce moment. Là.
Wow. On va parler de l'enjeu des enfants intersexes. C'est important tout ça parce que c'est un point spécifique du rapport qui concerne l'absence d'interdiction des chirurgies non consenties sur les enfants intersexes dans le code criminel. Pourquoi cette réforme législative recommandée par l'ONU est-elle une priorité absolue là, dans le respect de l'intégrité physique au Canada?
Mais c'est une priorité absolue parce que ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de flou toujours qui fait que il y a encore et toujours des chirurgies qui sont non nécessaires, en fait. Ce qu'on appellerait des chirurgies de normalisation qui sont faites sur des enfants de moins de 2 ans. Mais quand on observe les chiffres, je veux pas dire n'importe quoi, mais au Québec, dans les opérations qui ont été faites, il a été prouvé qu'elles étaient sans nécessité médicale. Mmh. Donc, il y a ce danger là pour l'enfant en tant que tel. C'était vraiment une décision des parents, des médecins, en fait, de choisir au niveau de la chirurgie pour l'enfant, finalement.
Ouais, pour bien comprendre, les enfants intersexes viennent au monde, puis c'est peut-être pas très clair quand on regarde c'est quoi le genre assigné à la naissance et on décide pour eux ou pour elles.
Pour eux,
ouais.
Exactement. Des préjudices irréparables, en fait, pour ce que ça va devenir.
Tout à fait.
Il faut avancer là-dessus. Ça fait des années que ça n'avance pas et qu'il reste ce flou-là qui, malheureusement, donc laisse la part belle à des décisions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'enfant.
Alors maintenant, je terminerai là-dessus. Au Conseil, vous demandez si le gouvernement canadien fera preuve d'autant d'écoute que l'ONU. Ce serait quoi, là, les premières étapes attendues des décideurs suite à la publication de ces observations?
Nous, ce qu'on veut au Canada, c'est un cadre légal plus clair contre la haine, l'intimidation et la cyberintimidation. Donc, de cesser ce flou-là qui perdure encore, que ce soit, comme on l'a dit, au niveau des opérations, mais aussi au niveau des thérapies de conversion, par exemple. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu une grosse campagne au Canada. On se réduit là, d'une campagne contre la haine pour qu'on se sente à nouveau protégé par nos décideurs politiques.
Magali Boudon, c'était clair tout ça. Merci beaucoup. Vous êtes directrice générale du Conseil québécois LGBT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Denis Martin. Bonne journée.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Maddow.
Je sais que t'aimes ça, cette présentation-là. Chantal Nadeau, qui est professeure d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Chantal, on commence en gros. La Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision qui ébranle le monde de la santé et donc qui invalide l'interdiction des thérapies de conversion aux mineurs en s'appuyant sur le premier amendement. Explique-nous ça.
Écoute, c'est un glissement juridique majeur et, je dirais, anxiogène pour les populations queer aux États-Unis. Dans une décision sans appel de 8-1, les juges ont estimé que, puisque ces thérapies reposent sur la parole, elles relèvent de la liberté d'expression et non de la pratique médicale réglementée. C'est un raisonnement qui transforme un acte de soin en un acte de discours, dans ce cas-ci, une simple opinion. En faisant cela, la Cour crée une brèche énorme. Elle suggère qu'un professionnel de la santé peut ignorer les standards de sa profession et les preuves scientifiques dès lors qu'il n'utilise que le langage. Pour les jeunes LGBTQ états-uniens, ça signifie que la protection de l'État s'arrête là où commence le prétendu droit de parole du thérapeute, même si cette dernière, utilise des méthodes qui provoquent des traumatismes profonds.
Donc, ça veut dire que c'est le retour des thérapies de conversion, là?
Oui, ça veut dire qu'au niveau juridique, ça veut dire qu'en l'absence de quelques altérations chimiques, médication ou physique, chirurgie, toute intervention destinée à corriger des comportements, des pensées ou une identité jugée non conforme aux standards hétéronormatifs est légale.
Aïe. Bon, mais l'ONU avait quand même qualifié les thérapies de conversion de torture.
Oui, en effet, mais comme tu sais, l'ONU a un pouvoir moral et non juridique. Oui. Pour avoir des statistiques aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec les thérapies de conversion? J'ai fait un décompte dans les États. Faut savoir qu'en ce moment, il y a 23 États qui ont jugé illégales les thérapies de conversion, 4 États qui restreignent les thérapies de conversion, mais n'interdisent pas à certains professionnels de la santé dûment accrédités de dispenser des soins de conversion, et 5 États, tous du Sud, je parle du Sud continental, interdisent toute loi prescrivant les thérapies de conversion, ce qui nous laisse avec 18 États avec un vide juridique.
Bon. Bien, cela dit, il n'y avait pas... C'est pas tout le monde sur la Cour suprême qui était d'accord. Il y a eu la dissidence. La juge Ketanji Brown Jackson qui a publié une opinion dissidente extrêmement vigoureuse.
Oui, la juge Jackson, brillante avocate, progressiste et première femme noire nommée à la Cour suprême, rappelle une vérité fondamentale qui semble avoir échappé à ses collègues, incluant ses alliés libérales de Sotomayor et Kagan. La médecine n'est pas un débat d'idées, c'est une science basée sur des faits. Elle dénonce l'idée que les traitements par la parole seraient immunisés contre la réglementation sous prétexte qu'ils ne sont pas chirurgicaux. Elle insiste sur le fait que la société états-unienne a établi des normes claires pour protéger les citoyens contre l'incompétence et les traitements soi-disant préjudiciables. Sa distance assassine est un rappel puissant que la liberté d'expression ne devrait jamais être un permis de répression ou de négation, surtout lorsqu'il s'agit de la santé mentale des mineurs.
C'est vraiment quelqu'un qui fait parler d'elle, hein, cette juge?
Oui, elle a été nommée par Biden.
Et
je dirais que Biden avait déjà du sang sur les mains à cause de lui qu'on s'est ramassé avec Clarence Thomas à la Cour suprême.
Oui.
Alors, quand même, c'est une juge qui est super articulée. Elle vient du milieu communautaire. Elle a fait plein de trucs au niveau des cours d'appel. C'est vraiment une femme brillante. C'est la plus jeune, d'ailleurs, sur la Cour suprême. Parce que pour l'auditoire canadien et francophone, il faut savoir qu'aux États-Unis, les juges sont nommés à vie.
Oui. Maintenant, là, cela dit, une opinion dissidente, ça sert à quoi quand la majorité a dit que c'était correct?
Ce que ça fait, c'est que ça donne des munitions à des groupes comme ACLU, tous les groupes qui essaient de contester, qui amènent en cours, qui font des réclamations en
appel. Donc, pourrait ramener cette question-là.
Oui, donc ça peut faire jurisprudence éventuellement. C'est sûr qu'on parle de pas demain matin. Hein,
non, mais c'est intéressant.
Ça donne... Oui, et Jackson est toujours, elle est toujours comme ça. Elle fait toujours quand elle fait des opinions dissidentes, Brown Jackson, elle fait toujours pour donner les munitions aux groupes qui contestent ce genre de loi. Alors, elle est impeccable là-dessus.
On va aller dans un autre État, en Géorgie. Et là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Malgré toutes les sombres nouvelles qu'on peut entendre aux États-Unis, à la Géorgie, on vient de nous offrir une surprise de taille. Pour la première fois depuis des années, la totalité des 15 projets de loi anti-LGBTQIA+ a été bloquée lors d'une session du Parlement. Comment un État aussi conservateur a-t-il pu faire un tel virage?
Moi, je dirais que je retourne à Brown Jackson et je pense que quand elle parle qu'il y a des risques accrus de dépression, de pulsions suicidaires par ce genre de décision qui a été faite par rapport aux conversions de thérapie, je te dirais que c'est une victoire historique qui repose sur une mobilisation et une coordination de terrain sans précédent entre activistes et groupes de défense des droits des communautés LGBTQ+. Et fait encore plus marquant, et ça j'insiste, c'est que la Géorgie fait partie des cinq États qui interdisent toute loi bannissant les thérapies de conversion. Donc c'est assez intéressant qu'ils ont, alors qu'on s'attendait à un État comme ça qui allait comme renforcer tout ce qui s'est décidé au niveau de la Cour suprême, non, ils ont donc retourné, si tu veux, la rhétorique. Donc il y a plus de 60 comtés qui se sont unis pour dire non à ces lois discriminatoires. C'est quand même assez étonnant parce que... Quand on regarde la Géorgie, il y a Atlanta qui est comme une espèce d'enclave libérale, si tu veux. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça a dépassé l'enclave démocrate traditionnelle. Ce qui est fascinant dans le changement de discours, les organisations comme Georgia Equality ont réussi à convaincre que ces soi-disant guerres culturelles étaient des distractions politiques et coûteuses, ce qui est toujours politiquement... chanceux aux États-Unis. Les électeurs georgiens ont clairement exprimé qu'ils préféraient voir leurs élus travailler sur le coût de la vie plutôt que de criminaliser les bibliothécaires qui refusent d'interdire des livres ou les soins de transition. Je te dirais que c'est la preuve que même dans les États du sud états-unien, la rhétorique anti-queer se fissure et que la Cour suprême est de plus en plus déconnectée des réalités économiques et sociales, ce qui faisait partie du jugement de dissident de Brown Jackson.
On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on commence à avoir un effritement de ce mouvement MAGA, Make America Great Again, de M. Trump? Il me semble qu'il commence à avoir la vie plus difficile, Donald Trump.
Bien là, il y a eu quand même à savoir comment ça va se concrétiser dans les bulletins de vote, ça c'est autre chose. Mais il y a certainement une fissure qui s'applique Et même de voir la Géorgie qui, traditionnellement, on ne s'inquiète absolument pas de ce qui va se passer au niveau de... Pour les républicains, la Géorgie, c'est toujours dans la poche, comme on dit, sauf Atlanta, mais Atlanta, c'est comme Austin au Texas, ça, c'est autre chose. Mais on voit une fissure, et ce qui se passe, c'est que la fissure, plus en plus, je pense que l'administration Trump a très mal jugé sa façon de se retourner. Bien sûr, il y a plein de théories conspirationnistes sur pourquoi l'administration Trump s'est tournée vers l'international. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui sont profondément anti-international dans le mouvement MAGA, qui faisait partie finalement de la plateforme de Trump dans ses deux mandats, quand il était en campagne, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens font « ben non ». Et comme je lisais par Gender Equality de la Géorgie, qui nous dit, ben non, mais là, au niveau économique, qu'est-ce qui se passe là? On n'en a rien à foutre. Oui, c'est correct, là, les thérapies de conversion. Oui, c'est correct, les transgenres, mais là... Donc, ça a complètement... C'est à ce niveau-là qu'ils vont... Ça va peut-être... Je dirais que c'est à ce niveau-là que la fissure s'opère. Et les gouverneurs démocrates aux États-Unis, incluant mon gouverneur ici en Illinois, Pritzker, jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus.
Mais Chantal Nadeau, professeure d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
OK, merci Denis Martin. Bye-bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ici Marine Le Pen. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard.
Bon, on a dépoussiéré Marine Le Pen pour te faire plaisir, Christophe. Bonjour, Christophe Gérard.
Bonjour, Denis Martin, comment vas-tu?
Ça va bien. Alors, on commence cette chronique avec une nouvelle qui nous vient d'un pays qu'on citait souvent comme un exemple pour son progressisme, un peu comme le Canada finalement, le Portugal. Mais le vent semble tourner. On parle d'un véritable coup de force législatif contre les personnes trans et intersexes. Que s'est-il passé donc au Parlement de Lisbonne?
Mais c'est un véritable séisme, Denis Martin. On pensait en effet que le Portugal, solidement ancré dans le peloton de tête des pays protecteurs, et pourtant, les 19 et 20 mars dernier, le ciel s'est assombri d'un coup, hein, puisque le Parlement a adopté en première lecture toute une série de projets de loi qui visent purement et simplement à démanteler les acquis de 2018. Alors à l'époque, le pays avait fait l'histoire en permettant le changement de genre à l'état civil sur simple déclaration. Bah, aujourd'hui, il veut faire tout simplement marche arrière.
C'est une alliance politique assez large qui a porté ce projet, si je comprends bien.
Tout à fait. C'est le résultat d'une coalition de circonstances, il faut le dire, entre la droite traditionnelle, le Parti social-démocrate, le Parti populaire, avec l'extrême droite du Parti Chega. Le vote est sans appel, 151 voix contre 79. On assiste à une offensive frontale qui utilise, une fois de plus, les personnes trans comme des boucs émissaires d'un repli identitaire.
Quand on regarde le détail de ces textes, on a l'impression d'un retour en arrière de plusieurs décennies. C'est le retour même de la pathologisation là, d'être trans ou intersexe.
C'est précisément ça, Denis Martin. En fait, on veut rétablir le verrou médical. Fini l'autodétermination, il faudrait à nouveau qu'un psychiatre ou un médecin valide qui vous êtes pour que l'État daigne modifier vos papiers. Et puis, c'est pas tout, hein, puisque les textes prévoient également de remonter l'âge légal pour le changement d'état civil de 16 à 18 ans, d'encadrer, il faut comprendre par là, restreindre l'accès aux soins des transitions et même d'instaurer une forme de censure scolaire hein, sur les thématiques LGBTQIA+, un peu à la manière de ce qu'on a vu en Hongrie.
Qui, on espère, va changer peut-être avec le nouveau gouvernement, mais ça, on va y revenir. Forcément, là, la communauté sur place ne reste pas silencieuse. Il y a eu des manifestations devant le Parlement.
Tout à fait. Hein. La riposte s'organise sous les drapeaux bleu, blanc et rose. Alors, le message des manifestants est simple et limpide. Mon identité n'est pas un débat. Les associations telles que ILGA Europe ou TGEU sont en état d'alerte maximum. Ce qui est particulièrement cruel, c'est que ces textes menacent aussi les personnes intersexes en affaiblissant notamment les protections contre les mutilations médicales qui ne sont pas consenties. On s'attaque à l'intégrité physique et à la dignité la plus élémentaire.
Christophe, le Portugal était un pionnier. Est-ce que ce retour en arrière risque de faire tache d'huile en Europe?
Ben c'est tout le danger. L'ONG Forbidden Colors utilise une image qui est très juste. Les personnes trans sont un peu les canaris dans la mine. Elles sont les premières cibles des politiques réactionnaires, mais elles ne sont jamais les dernières. Et quand un pays comme le Portugal, qui était au sommet du Rainbow Map, commence à vaciller, ben c'est toute l'architecture des droits humains en Europe qui est fragilisée. Et le passage de ces textes en commission sera un test de vérité. Alors, est-ce que le Portugal va choisir de rester une démocratie inclusive ou alors de céder aux sirènes de la réaction? Ben, en tout cas, une chose est sûre, Denis Martin, c'est que quand un pionnier recule, c'est nous tous qui perdons du terrain.
Bon, tu continues avec un sujet qui touche au cœur de notre quotidien numérique. On le sait, pour beaucoup d'entre nous, les applications de rencontre sont devenues le passage obligé pour faire des connaissances. Mais ces espaces de drague se sont transformés pour certains en véritable terrain de chasse. Le gouvernement français vient de réagir avec une annonce de taille, là, ce 23 mars dernier. On s'attaque enfin donc à ces guet-apens.
Eh oui, enfin, c'est le mot. Il était temps, hein, que l'État siffle la fin de la récréation pour les prédateurs. C'est la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui porte ce dossier. Elle tente ici de répondre à un constat absolument glaçant. Rien qu'en 2024, on recensait en France un guet-apens LGBT-phobe tous les 4 jours. Alors le mode opératoire est d'une cruauté chirurgicale et on a tous en tête le témoignage d'Eddie Reynaud, hein, que tu
Oui.
avais reçu il y a quelques semaines. Eddie, c'est un militant de chez SOS Homophobie et il te racontait, hein, ce rendez-vous à Nice, dans le quartier Pasteur, avec un faux profil Grindr, une APAS et soudain deux agresseurs qui surgissent. Il a été projeté contre un mur, asphyxié. Et il raconte, quand je me réveille, je marche courbé, je ne sais plus où je suis. C'est l'horreur absolue, d'autant que sa plainte a été classée sans suite. Alors, pour être clair, on ne parle pas de rencontres qui tournent mal, hein, mais on parle vraiment de crimes de haine prémédités.
Wow. Et pour contrer cela, donc, Aurore Berger, le ministre de l'Égalité, a réuni les gérants du secteur. Qui a signé cette charte d'engagement?
Bah, on a les poids lourds. Il y a Tinder, Grindr, Bumble, Happn. Alors c'est historique, hein, parce que la France devient, hein, le premier pays au monde à instaurer un tel niveau de coopération. Alors l'idée, c'est de briser le sentiment d'impunité derrière l'écran. Concrètement, la charte prévoit un accès facilité aux données des agresseurs pour la police et surtout un bannissement croisé. En fait, si tu te fais virer d'une application pour comportement violent, bah, tu ne pourras pas aller recréer un profil sur une autre application.
Ah bon, OK. Justement, sur la question des profils, il y a toujours cette peur de perdre l'anonymat qui est parfois une protection vitale pour les membres de notre communauté ou de nos communautés, je devrais dire. Comment la ministre, compte-t-elle s'y prendre?
C'est un point d'équilibre délicat, hein. La ministre se veut rassurante. En fait, l'objectif, c'est pas de forcer les gens à afficher son nom et son prénom en public. Loin de là, on parle de généraliser le profil vérifié en interne, c'est-à-dire par un selfie ou une pièce d'identité. L'utilisateur pourra ensuite choisir de ne filtrer que les profils certifiés. Alors, c'est une façon de réduire drastiquement le risque de tomber sur un cas de fiche malveillant sans pour autant sortir du placard de force.
Alors, les associations comme SOS Homophobie ou Stop Homophobie en Europe ou en France ont beaucoup poussé pour cette signature. Elles sont satisfaites du résultat?
C'est une victoire pour elles, hein, c'est indéniable. Elles seront aux premières loges pour former les modérateurs et élaborer les messages de prévention. Mais il y a un mais. Stop Homophobie a noté avec amertume que certains acteurs, pourtant présents aux discussions, n'ont pas encore signé. Alors, on parle de Scruff, Hornet ou Roméo. La porte reste ouverte, hein, mais le message est clair. Pour être efficace, la sécurité ne peut pas être une option à la carte.
Et au-delà des agressions physiques, les associations demandent déjà d'élargir ce combat à d'autres réalités comme le chemsex.
Absolument, la sécurité, c'est quelque chose de global. Les dérives liées au chemsex, je sais que tu en as souvent parlé, sont souvent facilitées par ces mêmes plateformes. Alors, c'est le prochain grand chantier sanitaire et sécuritaire. On ne peut pas se contenter de protéger les corps des coups de poing si on ignore les risques d'overdose et d'agression sexuelle sous produit.
Oui, tout à fait. On est à un an de la présidentielle en France. Le contexte économique et le contexte politique, j'allais dire, est lourd. Est-ce qu'il y a une part de calcul politique dans cette annonce?
Bah, on va pas se mentir, hein, Denis Martin, le gouvernement voit les sondages. J'en parlais le mois dernier, il y a 27% de l'électorat LGBT qui serait tenté par le Rassemblement national. Alors c'est paradoxal quand on regarde le bilan de ce parti qui est d'extrême droite, même s'il s'en défend. Le RN, c'est une constante d'abstention ou de vote contre nos droits au Parlement européen, mais également à l'Assemblée nationale. Par exemple, contre la reconnaissance de l'homoparentalité, contre la condamnation des zones sans LGBT en Pologne, ou encore l'interdiction des thérapies de conversion. Il ne faut pas oublier les liens avec le Hongrois Viktor Orban, tu en parlais tout à l'heure,
oui.
Il a été battu récemment, c'était le 12 avril, lors des élections législatives en Hongrie. Il a été battu par quelqu'un qui s'appelle Peter Magyar. Alors, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose hein, pour la communauté LGBT. Ce monsieur est issu hein, du parti d'Orban à la base. C'est un conservateur, certes pro-européen, mais il reste conservateur. Il a fait son programme vraiment sur l'économie et il est resté très ambigu sur les droits LGBT dans son pays.
À suivre. Donc, il nous reste 2 minutes. On va aller tout de suite du côté est et sud de l'Europe. On a souvent dépeint ces régions comme étant des bastions de résistance conservatrice, mais depuis le 20 mars, vendredi 20 mars, 2 décisions de justice majeures sont tombées. On commence par la Grèce.
Tout à fait. Hein, c'est ce qu'on appelle bétonner une réforme. Alors, tu t'en souviens, en 2024, la Grèce avait créé la surprise en devenant le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser le mariage et l'adoption. Mais les opposants et l'Église, notamment, n'avaient pas leur dernier mot, et ils ont saisi le Conseil d'État pour tenter de faire annuler les modalités d'application, et notamment sur l'état civil. La réponse des juges est tombée le 20 mars comme un couperet. Leurs recours sont rejetés.
Bon, that's it. On va aller tout de suite en Pologne, parce que là aussi, il se passe de quoi sur le mariage toujours?
Tout à fait. Hein. C'est une victoire pragmatique mais capitale. La Cour administrative suprême de Pologne a annulé le refus d'une administration de transcrire un acte de mariage conclu à l'étranger entre 2 personnes de même sexe. Alors jusqu'ici, c'était un parcours du combattant. Si tu te mariais par exemple en France ou en Espagne, une fois rentré en Pologne, tu redevenais un célibataire aux yeux de l'État. La justice polonaise vient de dire que tout ça, c'est fini.
Mais ça ne veut pas dire qu'on reconnaît le mariage homosexuel, du moins pas pour le moment en Pologne, là.
Non, ça reste la définition du mariage, en tout cas, reste inchangée en Pologne. Mais la Cour s'aligne sur le droit européen, et ça, c'est une victoire. Hein, pour garantir la liberté de circulation et le respect de la vie familiale, l'administration est désormais obligée de prendre en compte les unions de personnes de même sexe.
Christophe Gérard, qu'on rejoint en banlieue de Paris, ou j'aurais peut-être pu dire en région, plus en province, à Mérou, et qui est aussi le rédacteur du blog Queer de rien. Merci beaucoup.
Merci à toi. À bientôt, Denis.
Après la pause, on va parler de la journée de la visibilité lesbienne avec Samia Amrani, et on parle aussi d'un nouveau mouvement, un mouvement pour reconnaître les personnes noires et queer au Canada.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Et la journée de visibilité lesbienne aura lieu, c'est le 26 avril 2026. 26, pardon, ça vise à célébrer les personnes lesbo-queer. Au Québec, les festivités et les marches sont organisées, entre autres, par le Réseau des lesbiennes du Québec. Et pour en parler, nous recevons Samia Amrani, une des co-porte-parole de la journée et une figure marquante des luttes décoloniales et de LGBTQA+ à Montréal. Elle est avocate de formation, membre active de HLM Montréal. Elle s'investit pour les communautés avec une ferveur exemplaire. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'elle a été nommée hein, co-porte-parole. Je peux aussi souligner qu'elle a co-fondé La Fierté Indomptable l'an dernier, un projet célébrant la force des identités queer, saphiques et BIPOC, où nous on dit PANDC, personnes autochtones, noires et de couleur. Samia, comment reçois-tu cet hommage d'être co-porte-parole de la journée de visibilité lesbienne?
Salut Denis Martin.
Salut! J'aurais dû te dire un petit bonjour avant de commencer. Oui.
Oui, ça va bien, ça va bien.
Oui.
Écoute, je le prends avec énormément d'humilité, mais aussi comme un gros câlin, puis vraiment un baume sur le cœur. Puis c'est vraiment un titre que je porte pas à titre personnel, je le porte vraiment au nom de toutes les personnes qui s'impliquent avec moi là depuis les 10 dernières années et plus, que ce soit pour les luttes justement de personnes queer racisées ou au sein de la fierté indomptable HLM Montréal. C'est vraiment un honneur en fait. Ça a été hyper émouvant et touchant pour moi de recevoir cette nomination. Surtout auprès de mes co-porte-parole qui sont elles aussi incroyables. Donc Florence et Anne-Sara de Papefière, puis l'incroyable Manon Massé, là, c'est quand même tout un honneur.
Tout à fait. On va parler de ton implication auprès d'abord de HLM Montréal. Tu travailles donc avec des personnes queer ou de LGBTQIA+, de la région. Puis là, j'ai lu Swamna, oui. C'est quoi?
Swana, c'est en fait un terme décolonial pour parler du Moyen-Orient. Donc, c'est Southwest Asia and North Africa en anglais.
Okay.
Puis, je veux juste recontextualiser un petit peu là, mon travail avec HLM, comme tu le dis. Je pense que c'est important de remettre en contexte, là, surtout dans le contexte actuel avec le communautaire à bout et toute la levée du communautaire en fait, par rapport aux conditions actuelles. HLM, ce n'est pas un organisme qui a des employés. Donc, tout ce qu'on fait comme travail, c'est vraiment à titre bénévole. Et d'ailleurs, tout notre travail des dernières années nous a beaucoup essoufflé. En ce moment, on est en recrutement de nouvelles personnes pour rejoindre notre mission. Donc, on espère pouvoir repartir d'un feu nouveau là, pour les prochaines années.
C'est quand même du travail important parce qu'on connaît un peu là, ce qui se passe présentement au niveau des... Comment je pourrais dire? La parole raciste décomplexée, tu l'as vécu, mm-hmm. hein?
Oui, exactement. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important pour moi, parce que comme tu l'as nommé là, je suis avocate, donc j'ai quand même un 9-5. J'ai mon emploi à temps plein, puis je m'implique aussi auprès d'autres organismes, etc. Donc c'est sûr qu'on a besoin de mains, et je voudrais pas que le projet tombe à l'eau juste par essoufflement. On veut pas donner raison à ce racisme, comme tu dis, banalisé, normalisé. Donc, j'espère vraiment là qu'on va trouver les porteurs de cette voie-là pour la suite.
Alors, comment la question de la visibilité lesbienne ou lesbo-queer se croise-t-elle avec les réalités décoloniales que tu défends?
Je dirais que toutes nos luttes sont interconnectées. Quand on parle de queerness, on doit aller plus loin puis chercher d'où ça vient ces luttes, puis pourquoi aujourd'hui on peut bénéficier d'autant de droits ici, par exemple au Québec, au Canada. Il y a eu des pionnières avant nous, des pionniers, des pionnières avant nous qui se sont battus pour que ces droits soient acceptés, qu'on puisse vivre en fait notre amour et notre identité de manière libre. Et je pense que ce type de lutte, là, cet exemple, ce schéma de lutte peut être copié-collé là, pour toutes les autres, notamment les luttes décoloniales. Et dans le contexte qui me concerne, j'imagine que tu penses à ma lutte là, par rapport à ce qui se passe en Palestine.
Oui.
Je pense que ça peut être, c'est ça, on peut extrapoler là, puis appliquer ce modèle de lutte pour toutes les luttes.
Parce que tu es vraiment une personne impliquée et qui est toujours disponible quand on veut lui parler. Puis ça, je trouve que c'est important. Non, c'est très important parce que ce sont des sujets qui doivent être discutés, même s'ils ne sont pas populaires et même si ce qu'on dit ne fait pas toujours plaisir aux gens, c'est quand même des choses qui doivent être dites. Alors, quels sont les obstacles spécifiques auxquels les femmes lesbo-queer font face dans cette intersection?
Mais je te dirais que déjà, en général, en plus de l'homophobie, de la queerness ambiante, il y a du sexisme, de la misogynie. Donc, tu peux bien t'imaginer que quand tu es représentant non seulement de la gente féminine, mais en plus de la communauté LGBT, il y a une intersection de lutte qui existe. Et après, on peut aller rajouter d'autres oppressions. Donc, par exemple, une femme lesbienne qui est en plus grosse ou qui est en plus racisée, qui est en plus handicapée, qui est en plus neurodivergente, ça fait juste de plus en plus d'oppression. Et je suis vraiment fière d'avoir été choisie pour être co-porte-parole parce que je suis une femme racisée. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir aussi étendre ces voies-là. Et je ne sais pas si tu l'avais mentionné en introduction, mais je vais le faire. Je pense que c'est vraiment important de mentionner que cette année, la journée de visibilité lesbienne ne va pas être seulement à Montréal. Il y a également un week-end qui est prévu dans la ville de Québec. Et oui. Je pense que c'est vraiment cool parce que on nous parle souvent de Montréal. Réalo-centré, l'afrocentrisme. Et c'était une vraiment des thèmes là qui a été abordé avec le RLQ quand ils nous ont contactés pour faire le co-porte-parole là. C'était qu'ils voulaient rendre rendre ça plus accessible là, à travers le Québec. Moi-même là, je viens de Trois-Rivières, donc ça m'a fait vraiment plaisir de l'apprendre. Et je pense que c'est important de continuer de rendre ça encore plus large. Québec, c'est bien. Montréal, c'est extraordinaire. Mais je pense que dans les années futures, il va falloir aussi essayer d'aller rejoindre plus de gens dans les régions, parce que nos luttes queer n'existent pas que dans les grands centres, au contraire. Et parfois, elles sont invisibilisées ou oubliées parce qu'elles sont dans des régions plus éloignées.
On va parler de fierté indomptable, Wild Pride, qui a été créée en 2025. Tu as fait partie du groupe là, qui a mis ça de l'avant. Quel bilan adresses-tu?
Je suis tellement fière et émue. On vient de sortir notre rapport financier pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est, tu sais, parce que les gens ont donné, mais cet argent est allé où? C'est fou parce qu'en tout et pour tout, tu sais, c'était bénévole comme travail. Il y a des artistes qui ont été rémunérés, mais beaucoup d'entre eux ont décidé de donner leur cachet. Pareil pour les personnes qui se sont impliquées dans la cause. Certains d'entre eux ont pris une somme, et je te dirais vraiment, là, c'est dérisoire comme somme, mais la plupart ont décidé de donner leur temps. C'était leur manière de se dire qu'ils donnaient à la cause. Et on a réussi à amasser un peu plus de 8 000 $ qui a été distribué à différents organismes. Je vous invite à aller voir là sur notre page Instagram tous les détails. Mais le bilan que j'en fais, c'est que ça a été magique, ça a été magnifique. Et je suis vraiment fière d'annoncer là aujourd'hui qu'il va y avoir une deuxième édition.
Oui.
La deuxième édition est en préparation et je pense que ça devrait mieux se passer peut-être, dans le sens où on était une toute petite équipe pour la première édition. Là, on est allé recruter, donc on est une équipe, je pense, d'à peu près 25 personnes. Je pense que ça va être beau, ça va être grand, puis on va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année passée. Donc, j'ai hâte de voir la suite.
Je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Quelle sorte d'erreur dont on parle l'an dernier?
Mais je pense que c'est des erreurs qui ont eu des impacts, notamment sur notre niveau d'énergie et de fatigue, parce que juste, on s'attendait pas à ce que ce soit reçu avec autant d'enthousiasme, et on a dû donc rectifier le tir et donner beaucoup plus que ce qu'on était supposé donner. C'est comme moi, par exemple, au début, j'avais dit que j'allais donner peut-être un 5 à 10 heures par semaine, et finalement, vu l'engouement, j'ai dû donner pas mal plus de temps. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a agrandi l'équipe. Je pense qu'il faut aussi, le mentionner, là, mais on n'a pas pu être aussi inclusif qu'on aurait voulu l'être. Je pense que c'est important cette année d'essayer de vérifier, de faire attention là, puis de voir les erreurs qu'on a fait à ce niveau-là aussi. Je pense que tu étais une des personnes qui l'avait mentionné d'ailleurs, Denis Martin, mais ne serait-ce que par rapport à la langue française, là, il y a beaucoup de choses qui avaient été reprochées par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qu'on garde vraiment en mémoire. Et comme je te l'ai dit, là, vraiment être plus inclusif, accueillir le plus de groupes intersectionnels possible. Je pense qu'on fait toujours de notre mieux, mais je pense qu'on peut toujours aller plus loin.
Bon, Fierté Montréal a quand même changé. Hein. Je pense qu'il y a eu, tout un effet. Il y a eu tout un... cette espèce de mouvement qui a eu lieu, parce qu'au-delà de Fierté indomptable, il y a eu tout un mouvement communautaire qui a remis en question certaines choses à Fierté Montréal. Et on sait que, en fait, le conseil d'administration, beaucoup d'employés, ça a changé. Est-ce que tu es plus à l'aise vis-à-vis Fierté Montréal que tu l'étais peut-être l'an dernier?
Je veux pas trop prononcer, parce que c'est vraiment pas à moi de mentionner quoi que ce soit tant que ça n'a pas été discuté avec le reste de l'équipe. Mais je veux juste dire que j'ai eu la chance de rencontrer Higino, notamment, là, le nouveau directeur général. Exactement. Et je me sens pas mal mieux en sa présence, déjà. Je le sens beaucoup plus ouvert. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui veut essayer de réparer les blessures du passé. Donc, je veux juste dire que je suis ouverte. En tout cas, en tant que Samia, là, pas en tant que Wild Pride, pas en tant que Helem. En tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Moi, j'ai eu de super échanges avec Higino. J'ai même eu la chance de rencontrer certains membres de son équipe. Donc, écoute, si ce n'est que d'un niveau personnel, moi, je suis ouverte et quand même apaisée d'une certaine manière. Mais ce n'est que l'avenir qui nous révélera là, ce qu'on doit faire avec Fierté, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas. Et comme je te dis, par rapport à la Fierté indomptable, puis Helem, ce sera aussi des discussions là à venir, parce que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te donner plus d'informations sur nos échanges.
Bon, parlons de cette journée-là. On parle de découvrir, remercier, festoyer. Au-delà de la célébration, c'est quoi l'enjeu politique là, de rendre visible les personnes lesbo-queer dans un climat social qui, on l'a identifié, c'est pas facile ces jours-ci sur les questions de genre et d'identité sexuelle?
Je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je suis entourée de gens qui me ressemblent, je me sens mieux. Puis si ce n'est que pour ça, je pense que c'est important de prendre un moment pour se célébrer, pour se rappeler qu'on a le droit d'exister, puis se rappeler aussi, encore, tu sais, comme on le mentionne depuis le début de cette entrevue, là, l'importance des gens qui ont lutté pour nous. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est important. D'ailleurs, j'ai été invitée pour donc la première fin de semaine, le 25-26, c'est à Québec, puis la deuxième fin de semaine, c'est le 2 et le 3 mai, si je ne me trompe pas, ouais. À Montréal. Donc, pour la fin de semaine du 2-3 mai à Montréal, j'ai été invitée à être sur un panel avec d'autres Power Gwyn, qu'on nous appelle, là, du communautaire. Et j'ai bien hâte, parce que je pense que ça va être un échange important pour se rappeler, nos luttes, mais aussi se rappeler tout le travail extraordinaire qu'on fait dans le communautaire.
J'adore ce terme Power Gwyn, c'est vraiment... Il n'y a que vous autres pour passer à ces idées-là. Hein?
C'est beau, hein?
C'est beau. Non, c'est beau quand même. Se réapproprier ces termes-là. Le terme Gwyn peut être un terme péjoratif, mais peut aussi être un terme qui redonne du pouvoir aux gens. C'est important de le souligner.
Moi, je le prends comme ça.
Hey, on peut-tu parler de toi? Parce que là, on parle que tu es une personne racisée. Puis j'ai pas osé le dire moi-même. Comment tu te définis? Qui es-tu, Samia?
C'est la première fois qu'on pose cette question, je pense, en air.
Puis on the spot, comme ça, oui.
Oui, c'est ça. Écoute, ben moi, c'est quelque chose que je mentionne parce que ça fait partie de moi, mais au jour le jour, moi, je suis montréalaise, tu sais, je suis québécoise, j'ai grandi à Trois-Rivières, je suis marocaine, je suis pas pratiquante, donc je suis pas musulmane, je suis de culture musulmane, je vais toujours lutter aux côtés de mes sœurs musulmanes qui le pratiquent, aux côtés de mes frères, de mes adelfes en général, musulmans. Par contre, je ne suis pas pratiquante, bien que c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Je suis avocate en immigration, donc c'est un peu ça qui occupe mes journées. Puis, depuis que je suis toute jeune, je pense que ça vient peut-être du parcours migratoire de ma mère, qui est vraiment mon inspiration première. Mais j'ai jamais réussi à vivre que pour moi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi important pour moi de m'impliquer. Puis que, en fait, j'imagine très mal ma vie sans implication. Donc, c'est un peu pour ça que je continue de militer, parce que j'ai l'impression que des fois les gens pensent qu'on fait ça par ego ou parce que ça nous amène quoi que ce soit, mais honnêtement, moi je le fais parce que ça me fait sentir bien, puis parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien que de lutter aux côtés de mes adelfes pour toutes sortes de luttes d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je me définirai. J'aime beaucoup le vin.
Oui. On ira prendre un verre. Je vais devoir arrêter ici parce qu'on commence à entrer dans trop de détails puis il va nous manquer de temps. Mais merci beaucoup, Samia Amrani, co-porte-parole de la journée de visibilité lesbienne. À bientôt.
Merci beaucoup pour l'entrevue. Bye-bye.
Bye-bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Lancement historique de la toute première organisation nationale dédiée spécifiquement aux communautés noires de LGBTQIA+ au pays. Pour en discuter, nous recevons Tyler Boyce, qui est directeur exécutif de Noir et Queer au Canada. Bienvenue à l'émission, Tyler.
Merci, je suis ravi d'être ici.
On est ravi de te recevoir. Qu'est-ce qui a motivé la création de Noir et Queer au Canada à ce moment précis de notre histoire?
Mais avant, j'étais directeur exécutif du Réseau Enchanté.
Oui.
Et j'ai vu que j'étais la seule personne noire autour des tables où les décisions vraiment importantes ont été prises à propos du financement, de la programmation. Et puis, évidemment, c'est pas une dynamique idéale. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, j'étais au courant du fait qu'il y a besoin d'une organisation nationale qui concentre sur les gens noirs qui sont aussi queer et trans.
Alors, au-delà de l'organisation, que représente ce mouvement pour toi personnellement et pour l'ensemble des communautés noires, parce qu'il n'y a pas une communauté, il y a plusieurs communautés?
C'est vraiment un retour à nos racines. Si on pense de notre mouvement de LGBTQI+, il y avait une femme noire, Marsha P. Johnson, qui a vraiment éclaté cette
mouvement.
Ah oui,
qui était derrière les émeutes de Stonewall.
De Stonewall, exactement. Oui. Et puis maintenant, en 2026, on voit qu'il y a seulement une directrice exécutive qui est noire au niveau national. Donc évidemment, c'est pas bon et on va retourner à nos racines de cette mouvement. Pour moi, personnellement, c'est vraiment un espace où les idées, les perspectives des gens noirs pour être... pour être écoutés. Mm-hmm. Et où on ne doit pas comme... à essayer de combattre le racisme avant d'être entendre, mais jusqu'au début, on peut partager nos idées et informer les politiques et les programmes qui touchent nos vies.
Noir et queer au Canada, on a l'impression de passer de l'invisibilité à l'influence. Est-ce que je me trompe?
Mm-hmm.
C'est ça?
C'est trompant, moi.
Quels ont été les principaux obstacles systémiques qui ont maintenu les personnes noires de LGBTQIA+, ou de la diversité sexuelle et de genre, dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui?
Donc, maintenant, comme c'est vraiment une question de leadership, si on n'a pas les gens qui nous raisonnent aux tables où les décisions sont prises, on n'est pas là.
On va prendre une citation de Mark Carney: quand on n'est pas assis à la table, on est sur le menu, quoi.
Exactement, ouais. À Davos. Mais ce qu'on a besoin, c'est que, par exemple, j'étais avec la ministre en novembre et on a annoncé la ministre de Wage. Oui. Richie Valdez.
Oui.
Et on a annoncé 10 000 $ pour les communautés, les organismes communautaires de SLGBTQI+. 10 millions. Oui. Et c'est vraiment historique.
Oui.
Mais s'il n'y a pas une organisation qui est concentrée sur les gens qui sont noirs et queer et trans, on n'est pas inclus, on ne peut pas profiter des ressources. Et quand on voit les différents domaines comme logement, emploi, sécurité, il y a des taux qui sont vraiment plus pires,
oui,
pour des Noirs. Donc, on a besoin des ressources et la première étape, c'est de créer une organisation pour qu'on puisse faire ce sort de travail.
Et de prendre leur place. Parce que trop souvent, on attendait qu'on laisse la place.
Ouais.
Là, vous allez prendre votre place.
Exactement.
C'est important, ça, comme façon de voir les choses. On va parler de chiffres. En fait, je pense qu'on l'a mentionné, mais on dit que 86% des personnes noires de LGBTQIA+ ont subi du racisme au sein même des espaces queer. En plus de la moitié qui ont été confrontées à des menaces de crimes haineux, comment on peut interpréter ces statistiques-là au sein de nos communautés? C'est quand même désolant d'entendre ça.
Oui, exactement. On a trouvé ça pendant un projet de recherche qui a duré plus qu'un an. Et c'est, pour nous, en tant que Noirs, c'est pas quelque chose surprenant.
C'est ça que je trouve encore plus triste. Vous n'êtes pas surpris de ces chiffres-là?
Pas du tout. Comme des fois, si on parle toujours d'inclusion, mais des,
oui,
fois, l'inclusion n'est pas vraiment possible parce qu'il y a le racisme dans notre propre communauté de SLGBTQI+. Et quelqu'un a créé cette mythose que les communautés de SLGBTQI+ sont à l'abri de la racisme, mais c'est pas vrai.
De toute évidence, c'est pas vrai, oui.
Donc, on a des amis, on a des alliés dans notre communauté, mais il y a aussi des problèmes qui doivent être réglés dans notre communauté.
Et ça veut dire quoi aussi sur l'urgence d'agir quand on voit ces chiffres-là?
Mais c'est vraiment un contexte d'urgence. Si on parle des crimes haineux, on sait que les crimes contre la communauté de LGBTQI+ sont l'un des plus violents.
Oui.
Mais les crimes haineux qui sont les plus communs au Canada sont envers des Noirs. Donc, si on n'est pas dans des espaces où les décisions sont prises, où les ressources, où on discute le financement de notre mouvement, on ne peut pas régler ces mauvais taux de haine.
Ouais. Donc, votre organisme va se concentrer beaucoup sur la recherche, on veut du changement politique. On va au-delà de la simple visibilité. Remarque que c'est important d'être vu,
ouais,
mais on va aller plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de votre collaboration actuelle avec le gouvernement fédéral pour faire progresser l'équité en emploi pour les fonctionnaires noirs et queer?
Oui, donc vraiment, c'est un de notre environ de focus. On veut assurer que les gens noirs et queer ont à la base la possibilité d'avoir des emplois qui, mm-hmm, sont dignes, les emplois qui sont stables, pour qu'ils puissent régler leurs propres problèmes. Mais ça commence avec le logement, mais ça commence aussi avec l'emploi. Et nous avons des partenariats partout au Canada pour régler ces problèmes, pour créer des opportunités d'emploi.
Est-ce que je peux t'amener sur un terrain qui est peut-être un peu délicat, mais il faut en parler? Beaucoup de personnes vont dire, être queer dans les communautés noires, c'est souvent pas bien vu. Alors, il y a comme il y a comme vous subissez un peu de discrimination vis-à-vis les personnes blanches, mais même au sein de vos propres communautés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un travail à faire auprès des communautés noires, tu penses?
Bien sûr, il y a du travail à faire, mais il y a aussi du travail à faire de raconter nos propres histoires.
Oui.
Parce que toujours, il y a cette mythose envers les mythologies à propos des communautés noires qui sont plus homophobes que des autres communautés. Mais ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Mais la raison que cette histoire est partout, c'est parce qu'on n'a pas une organisation comme Noir et Queer au Canada pour qu'on puisse raconter nos propres histoires, nos propres perspectives et expériences dans notre propre communauté. Donc, oui, il y a du travail à faire dans la communauté noire, mais il y avait le travail à faire dans toutes les communautés.
Toutes les communautés sont au même niveau. Et finalement, c'est toujours un peu... J'ai posé la question en sachant très bien que je m'en allais là, parce que c'est quand même... C'est une vue qui est quand même très raciste de penser que les communautés noires sont moins ouvertes vis-à-vis des personnes homosexuelles.
Exactement ça, oui.
Ouais. Que dire aussi des communautés queer? Là, on a dit, ben, parfois, c'est sûr qu'il y a de la discrimination. Il y a plusieurs sortes de discrimination. Là, je vais t'amener sur un autre terrain qui est un peu délicat, mais tout ce terrain de ce qu'on appelle l'objectivisation, surtout chez les hommes gays, des hommes noirs. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est omniprésent ou je me trompe?
Non, c'est bien sûr omniprésent et c'est à cause des stéréotypes. Et la chose qu'au Noir et Queer au Canada, on est concentré sur de mettre la confiance, même dans, ou uniquement comme dans les jeunes,
oui.
pour qu'ils puissent le voir d'une façon qui est beaucoup plus grand des stéréotypes qui existent, qu'ils sont, ne sont pas juste les stéréotypes, mais ils sont des individuels aussi avec leur propre intérêt et tout ça. Et il faut être apprécié comme ça.
Oui, je ne vais pas entendre les détails, mais je pense que les gens comprennent où est-ce que je voulais aller avec ça, parce que c'est souvent un des problèmes que beaucoup de personnes, d'hommes noirs, queer, que je connais, me racontent. Puis je me dis, mais c'est pas croyable qu'en 2026, on est encore là.
Exactement.
Encore du travail à faire. L'organisme aspire à ce que les communautés s'épanouissent dans la sécurité et l'autodétermination. Alors, quel message on peut envoyer aux jeunes noirs et queer qui cherchent aujourd'hui des espaces où ils peuvent enfin rêver d'être qui ils ou elles sont sans limite?
Mais en premier, c'est juste à dire qu'ils sont parfaits. Vous êtes parfaits comme vous êtes. Des fois, c'est difficile d'imaginer un monde qu'on n'a jamais vu avant.
Oui.
Donc, de voir comme la représentation d'une organisation nationale noire et queer au Canada, pour voir qu'on n'est pas seul, mais en fait, on est parti d'une coalition, communauté partout au Canada. C'est ça où la change commence. Donc, je veux que les gens sont au courant du fait qu'ils ne sont pas seuls. On est là, moi, je suis là, et on a du travail à faire, mais on va faire ce travail ensemble.
Et de faire reconnaître aussi qu'il y a une discrimination systémique, pour ne pas dire racisme systémique. Le simple fait de se promener en auto, parfois, c'est compliqué quand on est une personne noire.
Les problèmes avec la police qui aiment en faire face aux communautés noires, mais aussi les problèmes avec la police qui sont faire face aux communautés de LGBTQI+. Il faut avoir des différentes perspectives, la recherche, ce qu'on fait au Noir et Queer au Canada, pour qu'on puisse informer des politiques publiques qui sont meilleures.
Alors là, vous êtes situé présentement, vous êtes un peu partout au Canada ou votre siège social est ici à Montréal?
Partout au Canada, Montréal, Ottawa, Edmonton et aussi Vancouver.
Et là, je sais qu'il y aura une espèce de lancement qui aura lieu avec un sommet. Alors, raconte.
Oui, donc c'est le plus grand sommet des gens noirs, queer et trans dans l'histoire du Canada. C'était à Ottawa en février avec des centaines, des centaines des leaders noirs, queer et trans. Et on a vraiment imaginé un monde meilleur, un monde où nous ne sommes pas seulement inclus, mais où nous aussi dirige l'agenda de notre système politique, nos politiques publiques, nos programmes, où on discute qu'est-ce qu'on a besoin et quelles sont les solutions. Et c'est vraiment, il y a de pouvoir dans ça, où les gens se sentent que leur voix a de valeur.
J'aimerais parler à Tyler lui-même. Alors, Tyler, t'as grandi où?
Moi, j'ai grandi à Ottawa, mais je suis maintenant à Montréal.
Montréal. Comment c'était de grandir comme jeune homme noir et queer?
À Ottawa.
À Ottawa.
C'était différent à Ottawa.
À Ottawa, il roule les trottoirs après 10 heures le soir.
Ottawa, ça évolue rapidement. Oui. Mais pour moi, c'était, je suis vraiment chanceux d'être à Ottawa avec des bonnes écoles, universités et tout ça. Et un petit statistique à propos d'Ottawa, c'est après les Blancs, la plus grande communauté ethnique, c'est des Noirs. Donc, oui. Il y a une grande communauté noire, une fierté d'être noire à Ottawa, et c'est vraiment mes racines qui m'ont poussé de créer cette organisation au niveau national.
Donc, tu te sens un peu privilégié, puis tu sens le besoin de partager tout ça?
Et je veux partager ça avec tout le pays.
Et tu vois ton organisation où, dans un an, dans deux ans?
Dans quelques ans, je vois qu'il y a vraiment les connexions entre les gens noirs, queer et trans partout au Canada. Et je veux voir l'inclusion de notre communauté dans des stratégies existantes au niveau de la politique publique. Par exemple, logement, pas juste la visibilité, mais l'emploi, le logement, toutes ces stratégies qui existent. Moi, je veux voir d'une façon spécifique l'inclusion de notre communauté avec des ressources.
Tyler Boyce, directeur exécutif de Noir et Queer au Canada. Bravo pour cette organisation, puis merci d'être passé nous voir.
Merci beaucoup.
Cet épisode 139 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève tire à sa fin. Grand merci à nos invités et collaborateurs du jour, Magali Boudon, Chantal Nadeau, Christophe Gérard, Samia Amrani et Tyler Boyce. Pour nous suivre ou réécouter nos segments, suivez-nous donc sur nos réseaux sociaux et sur le site de Canal M. Merci à Godéric Trobe à la recherche. Merci aussi à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis-Martin Chabot, je réalise et j'anime cette émission. À la semaine prochaine.